Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Ok, donc Jean 4, versets 21 à 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc Jésus nous a enseigné cela. C'est la seule fois où il enseigne sur la louange, c'est la seule chose qu'il a laissée. Je crois qu'il a tout dit. À la fois c'est simple, puis à la fois c'est compliqué. Mais c'est simple parce qu'il ne donne pas de choses techniques. Il dit toutes les choses techniques de l'Ancien Testament, il ne les a pas oubliées, il ne les a pas effacées. Il y a la joie, il y a les cris de joie, il y a la célébration, il y a la louange, il y a les chants, il y a la musique. Mais il dit tout ça. Ce qui est le plus important, c'est dans quel esprit et dans quelle vérité tu le fais. Parce que si c'est juste l'ambiance, si c'est juste la musique, ça ne suffit pas. Si c'est juste la religion, si c'est juste aller sur la montagne puis dire j'ai chanté, ça ne suffit pas. Mais si tu es vraiment dans l'esprit, tu laisses Dieu utiliser ta vie pour communiquer une adoration en esprit. Et ensuite, dans la vérité, tu obéis à ce que tu chantes. C'est facile de chanter à Dieu, je te donne ma vie. C'est facile de chanter, je t'adore de tout mon cœur. Mais quand Dieu te demande, ben des fois c'est plus difficile d'obéir de tout son cœur pour l'adorer. Donc il enseigne cette vérité à cette femme et ça reste un fondement pour nous pour l'adoration aujourd'hui. Genèse 22, c'est un texte aussi très important qu'on verra plus en détail tout à l'heure, mais c'est la première fois qu'il y a le mot « adorer » dans la Bible. Et vous savez ce que c'est Genèse 22 ? C'est Abraham qui va offrir Isaac en sacrifice. Et ça, c'est la première fois que nous avons le mot « adorer » au verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Donc, c'est clé par rapport à cette histoire-là. Mais on la verra en détail après. Jean 14, tout ce chapitre nous parle de demeurer, d'aimer Dieu. Si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. Donc, l'adoration, ça va au plus profond de l'amour. Adorer, c'est finalement aimer très fort. Quand tu adores Dieu, tu l'aimes tellement fort que tu fais les choses qu'il te demande. Et nous avons Jean 15, là c'est « Demeurez en moi, je demeurerai en vous, je vous appelle mes amis, je vous ai choisis ». Tout ce chapitre parle aussi de la proximité, l'intimité. Et ça, c'est aussi une vraie adoration. Quand tu adores quelqu'un, tu es tellement bien avec cette personne. Et cette personne te partage des secrets, te dit des choses précises, profondes. Et tu peux y répondre parce que tu aimes aussi cette personne. Et Jean, 1 Jean 4, versets 7 à 21, c'est tout ce texte qui décrit Dieu comme le Dieu d'amour et qui dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Finalement, l'adoration, c'est une réponse à l'amour de Dieu. Dieu nous a aimé d'abord et nous, on lui répond. C'est lui qui a fait le premier pas et nous, on accepte. Il a fait une demande. « Je t'aime depuis toujours, je t'ai créé, est-ce que tu m'aimes aussi ?» Certains refusent, certains rejettent. Nous qui l'avons choisi, nous qui l'avons aimé, pour lui répondre en disant « Oui, je t'aime et je te donne aussi mon amour. » Par mes chants, par mes gestes, avec ma bouche, avec mes bras, avec mon corps et jusque dans mon obéissance. Il y a un texte aussi très intéressant dans Matthieu 22, versets 35 à 38. Celui-là, on va le lire en détail. L'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc un des pharisiens, qui se trouve là avec Jésus, pose une question. Et c'est intéressant parce que la Bible décrit même que cette question n'était pas sincère, ou elle était avec un but pour éprouver Jésus. Comme souvent, les pharisiens ils veulent trouver un piège, ils veulent attraper Jésus, ils veulent voir s'il a une erreur. Et la question c'est, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Vous savez que les pharisiens, ils obéissent à tous les commandements, ils essayent, ils disent... Je ne crois pas qu'ils y arrivent, parce que personne ne peut obéir à tous les commandements de la loi, dit la Bible. Hein. Dans Romains et dans Galates, c'est bien décrit. Personne, si tu veux marcher selon la loi, alors obéis à toute la loi. Et à pratique tous les commandements, mais personne n'y arrive. Mais les pharisiens, ils pensaient qu'ils y arrivent. Alors, ils disent, voilà, il y a tellement de lois, on obéit à toutes ces lois, mais qu'est-ce qu'il faut mettre d'abord? C'est même ridicule comme question. Parce que si tu obéis à la loi, il n'y a pas besoin d'avoir premier, deuxième, troisième, tu obéis à tout. Peu importe l'ordre. Mais là, ils aimeraient avoir une préférence pour pouvoir peut-être dire « bon, ça, j'obéis un peu moins, ça un peu plus ». Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tout simplement avec le début des 10 commandements. Le fondement de la loi de Dieu, ça commence par cela. C'est le premier et le plus grand commandement. Toute la loi de Dieu découle de l'amour pour Dieu. Si tu obéis à la loi sans amour, ça n'a aucun sens. Parce que la loi est basée sur l'amour. Pourquoi tu vas être fidèle à Dieu? Parce que tu aimes Dieu. Dans la même chose, dans une relation humaine, pourquoi tu vas être fidèle à ton épouse? Parce que tu aimes ton épouse. Si tu ne l'aimes pas, tu seras infidèle. Et si tu l'aimes, tu vas rester fidèle. À cause de l'amour, tu as un respect. Tu as une relation qui est juste, qui est bonne, par amour. Et pour Dieu, c'est la même chose. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné les relations humaines, le couple, la famille, pour nous apprendre comment ça fonctionne avec lui. Si tu aimes Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas tuer, tu vas honorer tes parents, tu vas respecter ton prochain, tu vas faire tout ce que la loi nous décrit ensuite. Mais si tu enlèves tous ces commandements, si tu gardes juste celui-là, tu aimes Dieu, si j'aime Dieu, je ne vais pas faire ça. Si j'aime Dieu, ça, je vais le faire. Ça te donne une direction très claire. Et là, Jésus décrit l'esprit de la loi. Et c'est ça qui manquait aux pharisiens. Ils avaient toute la loi sans l'esprit de la loi. On va obéir, mais il faut obéir. Et puis ils observaient surtout tous ceux qui obéissaient pas. Hein, ils passaient leur temps à regarder. Et aujourd'hui, dans toutes les églises, il y a encore des pharisiens. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est une tribu qui malheureusement existe toujours. Hein. Mais votre rôle, c'est pas d'aller les chercher. Mais malheureusement, ça existe. Donc il faut apprendre à affronter ça. Et pas vous laisser atteindre par ça. Et comme Jésus répond avec sagesse et amour. Jésus ne les a pas critiqués eux. Il aurait pu dire, ouais, pourquoi tu me poses cette question? Je vois que ton esprit n'est pas saint. Il savait, mais il n'a rien dit. Il a juste donné la bonne réponse. Et ils n'ont pas rien pu dire après. Il a répondu avec la loi. Tu aimeras Dieu. Donc là, ils ne peuvent pas discuter. Donc toutes les discussions que tu vas avoir, la qualité de la loi, qu'est-ce que c'est le plus important, numéro 1, numéro 2, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que tu aimes Dieu et que tu le prouves. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas faire ça. Et ça, tu vas le faire. Tu vas pardonner. Tu vas respecter. Tu vas servir, tu vas faire comme Dieu a fait lui-même. Donc ça, c'est une clé pour nous, Jésus répond, très important. La loi sans l'amour, ça ne sert à rien. Donc le Nouveau Testament nous amène la grâce sur la loi. Donc on sait que, ça c'est toute une étude sur la loi et la grâce, que j'aime aussi beaucoup faire, vous lisez bien Romains, vous lisez bien Galates, vous allez voir que c'est supérieur. Donc il n'annule pas la loi, simplement il la rend encore plus grande. Plus digne, plus belle, parce qu'il y a de l'amour dedans et ça change tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est ma question. Quand on est entré dans l'adoration, quand on a atteint la cible, quand on a loué Dieu, quand on est à ses pieds, quand on est prosterné, est-ce que tout s'arrête? C'est bon, j'ai fini, je m'en vais. Ma question, où nous conduit l'adoration? Que dois-je faire à ce moment-là? Et qu'est-ce que Dieu fait? J'ai réfléchi souvent à cette question, ayant conduit des centaines, des milliers de fois les temps de louanges, de prières, d'adoration. Mais on s'arrête parce qu'il y a un programme dans l'église, peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment ça s'arrête? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose? Et j'ai trouvé un texte qui m'a beaucoup parlé, qui m'a enseigné pas mal de choses. C'est Ésaïe 6, versets 1 à 8. Donc, quand on est devant Dieu, dans sa présence, on est prosterné devant lui, on écoute, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette adoration nous remet au même endroit où on était avant, ou est-ce que ça nous amène ailleurs? Et je crois foncièrement, fondamentalement, que l'adoration va nous conduire ailleurs, plus loin. Elle ne va pas nous laisser où on était avant. Et c'est pour ça que c'est aussi très important. Donc, Ésaïe 6. On va lire ensemble le texte de Ésaïe 6. Ésaïe 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, Ésaïe, le grand prophète, est au chapitre 6 de sa vie. Donc, il a déjà quelques années qu'il est au service du Seigneur. Hein? Ce n'est pas la première chose qu'il vit. Il était déjà au service, il était déjà prophète. Mais il y a eu une année particulière, la mort du roi. C'est toujours des années difficiles en Israël. Il y a des longues funérailles, des longs temps de pleurs. Et cette année-là, il a une vision. Et dans cette vision, il voit le Seigneur sur un trône très élevé, avec les pans de sa robe qui remplit le temple. Il voit ensuite des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui, car ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ces séraphins, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ce texte, ça vous rappelle d'autres textes? On a lu hier les textes de l'Apocalypse. Hein? Apocalypse 5, 7, 9, 19, c'est la même chose. Hein? Avec chaque fois d'autres éléments, d'autres détails, mais c'est la même chose. Ils ont tous la même vision de l'adoration dans le ciel. C'est-à-dire quelque chose de majestueux, quelque chose de grandiose. Il y a des anges, il y a de l'adoration. Et Dieu est saint. Dieu est saint. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. La maison se remplit de fumée. Tout à coup, il se passe quelque chose dans ce ciel. Ça secoue, ça bouge. Et je dis, peut-être que ça se passait aussi sur la terre, dans sa propre maison, peut-être qu'il a senti, il a vu une nuée, hein, qui est une rencontre avec Dieu. Et tout à coup, il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées. Vous savez, on est dans l'Ancien Testament, il n'y a pas encore Jésus qui est venu. Donc, dans l'Ancien Testament, un homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Hein, à part le grand prêtre qui pouvait aller dans le lieu très saint une fois par année. Mais un homme qui voit Dieu, il est condamné. Donc, Ésaïe se sent condamné, même qu'il est prophète, même qu'il sert l'Éternel. Et je vis dans un monde impur, je ne suis pas digne de cette sainteté. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 6. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Voilà, un ange fait une œuvre qui touche Ésaïe et qui le change. On va voir ça en détail. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Donc, je vais essayer de vous décortiquer ce texte en détail, vous expliquer. Je crois qu'il y a une rencontre, hein, point d'interrogation, parce que parfois, on n'est pas sûr, mais là, c'est clair, Ésaïe rencontre Dieu, le vit. Donc, il y a un face-à-face avec Dieu. Dans l'adoration, il devrait toujours avoir un face-à-face avec Dieu. Tout à coup, on saisit Dieu. Alors, c'est plus ou moins fort dans la vision, dans l'esprit, ce qu'on ressent, mais on est face avec Dieu, face-à-face avec lui. Et qu'est-ce qui se passe quand on est face à Dieu et notre péché est mis en lumière? Ce qui fait que beaucoup de chrétiens, ils ont peur de s'approcher de Dieu parce qu'ils ne veulent pas dévoiler leur péché. Ils ne veulent pas que Dieu révèle. Ou ils ont peur de leur conscience, de leur réalité. Tandis qu'Ésaïe, tout de suite, il dit « Malheur à moi, je suis impur. » Pourtant, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, ça ne doit pas être quelqu'un qui fait n'importe quoi. Hein? Mais même dans notre plus grand désir de sainteté, on reste humain, on reste chair, on reste faible, on reste avec le besoin de la grâce de Dieu. Et là, il se dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et moi, j'espère que ça vous arrive aussi des fois quand vous êtes dans la présence de Dieu en disant « Mais je suis misérable, je n'y arrive pas. » Je ne suis pas à la hauteur de la sainteté de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, la grâce de Dieu est nécessaire. Comme là, on est encore dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu fait tout. Il envoie un ange qui prend le feu et qui purifie. Le feu purifie. On sait que maintenant, c'est Jésus qui a fait cette œuvre-là. Et chaque fois que je me trouve dans l'adoration, je réalise à combien plus forte raison Jésus a fait quelque chose d'incroyable. Et son sacrifice m'est nécessaire pour aujourd'hui, pour me trouver devant Dieu, pour être accepté de Dieu. Ce n'est pas juste le jour où je me suis converti. Chaque fois que j'adore Dieu, merci Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton œuvre. Sans cela, je ne serais pas là. Sans cela, je serais condamné, je serais mis à mort, je serais éloigné de cette présence. Donc, je réalise à nouveau la puissance de la grâce de Dieu. Et on a besoin de le réaliser. Et à ce moment-là, je peux écouter Dieu. Je peux écouter son cœur, ses désirs. Parce que Dieu parle. Et c'est ça qui est intéressant. Qui est nécessaire, indispensable. Dieu se met à parler. Dieu qui se révèle à Ésaïe, tout à coup, il ouvre sa bouche et dit, « Qui va aller parler ?» Il pose une question. Vous savez, des fois, on entend des prophéties dans l'Église et puis on commence à croire que Dieu parle comme ça. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, d'Israël, de Jérémie, de Jacob. Et puis, il y a plein de virgules, d'anticipations, de présentations. Mais Dieu, il parle simplement, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi ?» Il n'y avait pas toute la présentation. Il savait que c'était Dieu. Il était avec Dieu. Dans l'adoration, on est devant Dieu. Il n'y a pas besoin de rajouter. Hein? Et Dieu, il n'accuse pas Ésaïe non plus. Des fois, les prophéties accusent, condamnent. Dieu n'accuse pas, Dieu ne condamne pas. Pourquoi n'as-tu pas fait cela? Pourquoi, etc. Non, Dieu dit, est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu veux marcher? Il ne lui dit même pas à Ésaïe, il parle d'une manière générale. Peut-être qu'il n'y avait pas seulement Ésaïe qui avait cette vision. Pourtant, il semble qu'il était seul. Mais Dieu pose la question, tu es seul, mais je la pose à toute l'humanité. Qui va aller parler pour moi? Qui va se lever? Donc Dieu pose des questions quand on est dans sa présence. Il va te parler d'un peuple, peut-être d'une tribu, peut-être d'un village, peut-être d'une église, peut-être d'une ville, peut-être d'un homme politique, peut-être d'un sportif, peut-être de quelqu'un vers qui tu pourrais aller. Dieu va te poser la question et toi tu peux répondre. Tu peux répondre à Dieu, tu n'es pas obligé, mais tu peux répondre. Et Ésaïe, il répond tout de suite, il dit « Me voici, envoie-moi ». Pourtant il ne sait pas où il va aller, il ne sait pas quand il va y aller, il ne sait pas comment ça va se passer. Mais il obéit. La seule chose qu'il sait, c'est que s'il répond, me voici, c'est qu'il va aller, il va être envoyé et il va marcher pour Dieu. Donc des fois, Dieu ne donne pas tous les détails. Dans l'adoration, ce n'est pas le moment où Dieu révèle des plans détaillés, mais c'est le moment où Dieu nous interpelle, le moment où Dieu nous parle. Et ensuite, ça nous pousse, ça devrait nous pousser à l'action. Je peux entrer dans l'intercession et dans l'action. Parce que l'action sans intercession, ça ne va pas marcher. Et il y a toujours de l'intercession. Et je crois qu'à ce moment-là, une porte s'ouvre sur le ciel. Il y a des moments où on sent que le ciel s'ouvre, n'est-ce pas? On est dans sa présence, tout d'un coup notre esprit s'ouvre, et c'est comme une nouvelle dimension qui est là. Quelque chose s'ouvre avec Dieu. Notre cœur rencontre le cœur de Dieu, un cœur à cœur. Et Dieu nous partage un peu de son cœur. Je crois que Dieu, il attend très souvent qu'on soit dans cette disposition. Et que si des fois Dieu ne nous parle pas, c'est que nous, on n'est pas prêts de l'écouter. Ou qu'on n'est pas arrivé au bout de l'adoration pour vraiment l'écouter. On a fait de la célébration, on a fait de la louange, on a chanté, et puis on s'en va, c'est bon. On est content, on a bien chanté, on a bien tapé dans les mains, et ça s'arrête. Alors que Dieu voudrait nous conduire plus loin, dans l'adoration, jusqu'à l'endroit où on va se taire, où on va se prosterner, on va obéir à ce qu'il va nous dire. Donc, Dieu veut nous partager un peu de son cœur, mais qu'est-ce qui se trouve dans le cœur de Dieu? C'est ça la grande question. Ça peut vous aider à discerner aussi. Parce qu'il y a des fois des gens qui entendent des choses bizarres dans leur cœur, qui entendent leurs propres désirs, ou qui entendent des fausses directions parce que les esprits de séduction sont aussi là pour nous éloigner de Dieu. On a besoin d'être sage, d'être vigilant. Mais si on sait et on connaît le cœur de Dieu, on va comprendre ce qu'il y a. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans le cœur de Dieu? Pour réfléchir un petit peu. Quelqu'un a une idée, une suggestion à faire? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? L'amour? Oui, bien sûr. Des projets de paix, non de malheur. Oui, bien sûr. Il a le Christ et son œuvre de salut pour l'humanité, tout à fait. Tout ça, c'est juste. Il y a beaucoup de choses dans le cœur de Dieu. Hein? Mais je pense qu'on peut le résumer, moi je le résume comme ça, je crois qu'il y a son amour pour la terre entière. Dieu a un cœur tellement grand qu'il aime toute la terre, pas juste l'Afrique, hein? Pas juste l'Europe. Il aime toutes les nations, la terre elle tourne, il voit tous les peuples, toutes les nations, il aime complètement tous. et il va commencer un petit peu à nous parler de cette terre. Hein? Le monde est dans sa main. Dieu tient le monde entier dans ses mains. Pour lui, c'est tout petit le monde. Pour nous, c'est immense. Et Dieu va commencer à nous parler, comme à Ésaïe, lui a parlé de son peuple, lui a parlé d'Israël. Il a dit, est-ce que tu vas parler à Israël? Un homme pour une nation, c'est déjà beaucoup. Grosse responsabilité, n'est-ce pas? Hein? Peut-être que vous, il ne va pas commencer à vous donner une nation, mais il va peut-être vous commencer à vous donner un village, une famille, une ville, puis ensuite peut-être une nation. Peut-être qu'après des années de ministère, vous serez appelé à être apôtre sur une nation, pourquoi pas? Peut-être une autre nation, un appel missionnaire, c'est recevoir le fardeau de Dieu pour une autre nation, pour une autre tribu, pour une autre langue, pour une autre région. Et merci Seigneur, parce que des gens ont entendu sa voix et se sont déplacés. Je crois que si beaucoup d'entre nous, on ne serait pas là s'il n'y avait pas eu des missionnaires que Dieu avait envoyés. Et même en Europe, Dieu nous a envoyé des missionnaires. Et en Afrique aussi, et en Amérique du Sud, et dans toutes ces nations. Parce qu'ils ont compris que Dieu les envoyait sur ces peuples et ces nations. Et ils sont allés avec son amour. Bien sûr qu'il y a eu des gens qui n'ont pas toujours fait juste. Mais l'appel de Dieu reste, la parole de Dieu reste, qui nous envoie vers une partie de son cœur. Alors personne d'entre nous peut porter la terre entière. Peut porter toutes les nations. Il n'y a que Dieu qui peut porter toutes les nations. Et si on se prend pour un grand prophète ou missionnaire qui va porter le monde, on ne va pas y arriver. Hein? Il y en a beaucoup qui ont essayé. Ils sont pensés qu'ils étaient les sauveurs du monde. Il y en a eu un, c'est Jésus. C'est lui le sauveur du monde. Nous sommes juste des envoyés qui pouvons servir au service du Seigneur dans une nation, dans un peuple, dans une région. Et certains ont des influences plus grandes que d'autres selon les dons, les capacités que Dieu nous a données. Et nous ne sommes pas là pour nous comparer, pour calculer, pourvu qu'on soit à la place. Si Dieu t'appelle dans un village, dans une église, à servir pendant 30 ans dans cet endroit, tu peux faire une différence dans cet endroit. Et c'est important aussi qu'il y ait des gens qui soient locaux, précis, à des endroits, n'ayant pas une vision trop élevée, mais commençant avec la vision que Dieu nous donne. En ce qui me concerne, dans ma propre vie, Dieu m'a donné une vision déjà pour ma propre famille qui n'était pas chrétienne. Et j'ai commencé à prier pour ma propre famille. Et j'ai vu un changement dans ma propre famille. Mes frères et sœurs et plusieurs sont venus au Seigneur. Mes parents sont venus au Seigneur après des années de prière. Tout un chemin. Encore deux frères qui ne sont pas au Seigneur et ont prié pour qu'ils viennent. Ensuite, Dieu m'a donné un fardeau pour ma ville. J'ai évangélisé avec mon groupe de jeunes dans ma ville d'Yverdon. Il y avait 20 000 habitants. Je trouvais ça énorme. Hein? Mais on a prié pour cette ville, on a intercédé pour cette ville, on a fait des campagnes d'évangélisation, on a servi dans l'église de cette ville, on a fait beaucoup de choses. Et puis un jour, Dieu a élargi ma vision, m'a dit, maintenant j'aimerais que tu touches la nation, tu aies une influence sur la nation. Donc on a commencé à avoir des rassemblements de prière, des journées nationales de prière pour la Suisse, où j'ai collaboré à des rassemblements, on a fait une journée de prière pour le jeûne fédéral, on a jeûné, on a prié pour la nation, on a prié dans les langues nationales, on a travaillé pour les 72 heures de louange, pour des projets où on se rassemble des différentes cultures, régions, cantons de la Suisse, pour prier pour la nation. Ça me semble déjà énorme, je me sens tout petit, mais je sais que je ne suis pas seul, et qu'il y en a d'autres. Et puis en même temps, dans mon appel à jeunesse en mission, j'ai un appel pour les nations francophones. Donc Dieu m'a mis le fardeau des pays qui parlent français. Donc on a pu aller dans des nations, aux quatre extrémités de la terre, où on parle français, sur les îles, et en Afrique, et en Europe, et voir Dieu à l'œuvre aussi. Puis en même temps, je sais que je ne suis pas tout seul, mais je joue mon rôle là où Dieu m'a appelé. Mais tout ça, je le reçois dans sa présence, dans l'adoration, par conviction, c'est une obéissance à ce que Dieu me demande. Donc je crois que la clé, je terminerai par là ce message. À partir de là, vous pouvez commencer à intercéder pour les nations. Parce que je crois que la clé, c'est l'intercession qui va avec la louange. La louange va toujours nous conduire à l'intercession. Il y a comme une porte ouverte qui s'ouvre sur le ciel, sur la présence de Dieu, qui va influencer les nations de la terre. N'est-ce pas? Donc, la louange, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas un but en soi. La louange, c'est fait pour nous approcher de Dieu, pour nous remettre à notre place. L'adoration nous amène au pied de Jésus. Et là, au pied de Jésus, on peut se réveiller, on peut comprendre ce que Dieu veut pour nous et on peut aller. Mais sans adoration, tu ne vas pas tenir le coup. Il y a beaucoup de gens qui sont partis comme un devoir, hein, comme par une loi. Il faut que je serve Dieu et je vais le faire. Ils ont fait en serrant les dents, mais au bout d'un moment, ils étaient épuisés, ils n'avaient plus de force, ils n'ont pas été capables de continuer parce qu'il manquait cette relation avec Dieu. La seule chose qui va te tenir dans la mission, dans le service, c'est l'adoration au Seigneur. Tu sais qu'il est là avec toi. Tu sais qu'il est ton père. Tu sais qu'il t'aime. Et ce que tu le fais par amour pour lui. Par amour, on peut faire des choses incroyables. Hein? Mais par la loi, on va très vite se fatiguer et très vite arrêter. Donc l'adoration, c'est une clé, je crois, dans la vie de l'Église, dans la vie de chaque chrétien, de rester là où Dieu nous demande et d'aller où Dieu nous demande, et on va pouvoir faire quelque chose de grandiose pour lui. C'est très important, ça. Le voile est déchiré aujourd'hui, donc on peut entrer dans le lieu très saint. Et c'est réservé pour tous les chrétiens. Et pourtant, certains chrétiens vivent comme dans l'Ancien Testament. Ils s'arrêtent au voile. Ils acceptent d'aller dans les parvis. Ils acceptent d'aller dans le temple. Mais quand il s'agit d'entrer dans le lieu très saint, ils disent, c'est bon, ils restent à distance. C'est comme s'ils savaient que Dieu était là, ils voyaient Dieu, mais en même temps, ils ne voulaient pas aller tout près de lui. Et je crois que là, il y a un réel défi. Il y a comme un mur de séparation, comme un voile qui est encore là, spirituel, et qu'on doit vraiment combattre cela. En l'expliquant, en encourageant les gens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de textes aussi. Moi, j'aime bien ces textes de Hébreux qui nous disent, par exemple, « Approchez-vous donc avec assurance du trône. » Hébreux 4, Hébreux 10, qui invite le peuple, « Mais venez dans la présence de Dieu. Approchez-vous du trône de la grâce. » Alors que les gens pensent que c'est le trône du jugement. Un jour, ça sera le trône du jugement, c'est sûr. Et Dieu va nous juger, va juger chaque personne. Mais actuellement, on est encore en trône de la grâce. Et on doit s'approcher de ce trône-là pour être vraiment dans l'adoration. Alors ça, c'est le défi des présidents, des pasteurs, des groupes de louanges, de tous ceux qui inspirent les autres, et d'ouvrir le chemin pour les invités, et pas d'être l'élite comme le grand prêtre qui dit « Moi, je suis dans la présence de Dieu et vous n'y êtes pas ». Il faut tout faire pour faire le contraire, dire « Moi, j'y suis, mais venez avec moi ». Donc on va tirer les gens, on va les faire venir dans cette adoration, on va les faire entrer dans cette dimension de l'adoration. Ça, c'est très, très important. Ouais. Et ces trois dimensions, vraiment, on les retrouve dans plein de secteurs, mais entre autres, justement, dans le tabernacle, on trouve les trois mêmes dimensions. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Autre question ?
Moi, j'ai assisté à des cultes dans les pays anglophones, notamment au Ghana, qui est juste à côté du Burkina. Dans ces églises, au temps de l'adoration, l'église est bloquée ou bien prête, du moins, ils mettent des personnes devant l'église. Ceux qui viennent en retard doivent attendre que l'adoration finisse avant que les retardataires viennent pour la louange. Donc, je ne sais pas, est-ce que je dis que l'adoration est plus importante que la louange, puisque dans ce sens que je voyais ça un peu comme ça. C'était comme si l'adoration était un acte solennel, et la louange, il n'y a pas de problème, tu peux venir comme tu veux.
Voilà.
Et puis, c'est comme si c'était une danse. Chacun peut. Voilà.
C'est vrai que, en même temps, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas des points, Dieu ne donne pas des numéros, des résultats, mais en même temps, on sent bien que dans l'adoration, on a besoin de beaucoup plus de préparation, d'un autre état d'esprit, on a besoin peut-être de plus de calme, de silence et de sérénité pour voir vivre profondément l'adoration. Donc, après le cadre, chaque église va organiser ça un petit peu comme il veut. Mais je pense que dans l'esprit, peut-être qu'on n'a pas pris ça assez au sérieux. Et puis que beaucoup de gens, ils viennent devant Dieu, et puis tout va bien, ils repartent, et ça ne change rien. Alors que normalement, une rencontre avec Dieu devrait changer quelque chose dans ta vie. Donc, favoriser le cadre dans l'église afin de permettre que l'adoration soit vécue le mieux possible. Je crois que c'est très important. Parce que moi, j'ai été aussi, je pense que ça vous est déjà arrivé, dans un moment d'adoration, on entrait dans la présence de Dieu, et tout à coup, quelqu'un vient au micro et dit « La voiture numéro 22 000, vous pouvez la déplacer ?» Et puis, ça casse tout, quoi. Hein? C'est comme si tu es au ciel, et tout à coup, tu retombes très vite sur terre, même sous terre, quoi. Donc, il faut saisir ces moments et les garder précieusement. Et ça, le rôle du président est très important. Dire, mais là, on est dans la présence de Dieu, on n'est pas en train de parler de la voiture, tant pis s'il a un problème ou une amende, ou quelqu'un va résoudre ça. Hein? Mais vous n'allez pas casser cette communion avec Dieu, où Dieu est en train de parler. Mais l'ennemi n'aime pas l'adoration. Donc, il y a souvent un grand défi pour arriver à être dans cette adoration et y rester surtout. Hein? Donc, c'est un travail. On n'y arrive pas comme ça du premier coup. Et il faut vraiment qu'il y ait des gens qui ouvrent le chemin, qui montrent l'exemple, qui permettent qu'on y arrive. Mais là, on va donner quelques pistes aussi très pratiques, très techniques, comment conduire les gens dans l'adoration. Je crois que ça, c'est très important. Hein. Autre question ? Tout est clair. C'est bien.